Seigneur.
Je ne sais, Seigneur, si Seigneur, monteront jusqu'au ciel. Si tu entendras tout là-haut ce très impacre, toi l'esclule impur, l'agite, toi j'espère toujours. Parlant les cœurs de Notre-Dame, l'éveil au roi d'amour.
Qui, je me semble, je vais, alors, je me semble, n'importe quoi. Bonjour, bienvenue dans Intimatopia, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité. Je suis Lille Clérance et je vais bientôt mourir. Le podcast que vous allez écouter, l'épisode du podcast que vous allez écouter là tout de suite, m'a été inspiré par le visionnage d'une vidéo et l'écoute d'un podcast, donc je vais vous les citer.
Ouais, j'ai envie de vous partager les choses qui m'inspirent, les choses qui me donnent envie d'enregistrer des épisodes en fait. C'est parce que je suis en contact avec d'autres pensées et d'autres œuvres que j'ai envie d'en produire d'autres et que j'ai envie de réfléchir. C'est parce que je suis exposée à des réflexions que j'ai envie de réfléchir. Je suis dans mon bain. je tiens à le préciser parce que vous allez entendre sûrement de l'eau. Et je suis dans mon bain et peut-être vous avez reconnu l'acoustique si particulière de cette pièce. Donc, le podcast et la vidéo qui m'ont inspiré cet épisode, c'est la vidéo, elle s'appelle High School Musical ou Comment aimer sa cinéphilie. Donc c'est un vidéaste qui s'appelle Alfie G, dont j'aime énormément le travail. C'est un monteur en fait où il décrypte des recettes en fait, des recettes de montage, de mise en scène, de réalisation, mais aussi autour de l'actorat. Ils font en fait de la vulgarisation de ce qu'est le cinéma et de comment fonctionne le cinéma en termes de narration, en termes de mise en scène, de dramaturgie, tout ça. Alfie G a sorti une vidéo qui s'appelle High School Musical, comment aimer sa cinéphilie, dans laquelle en fait il défend le fait que ce qu'on aime vient de quelque part. Comment ce qu'on aime est lié à ce qu'on a aimé, comment ce qu'on aime se nourrit des œuvres qui nous ont déjà plu. Assumer les œuvres qu'on a aimées, et ce qu'elles ont fait de nous, c'est aussi accepter qui on est et les histoires qui nous structurent en fait. Et c'est vraiment le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. C'est on peut aimer et critiquer quoi. C'est-à-dire que forcément, pour vous qui avez grandi dans les années 90 et en fait, 2000, mais je pense que c'est pareil pour toutes les générations, on peut avoir une sorte de malaise vis-à-vis des choses qu'on a pu aimer à l'époque. Et se dire, ok, ça craint sur certains points, que ce soit des points sur lesquels on s'est éveillé plus tard, en fait. Et en fait, porter un regard bienveillant et amoureux sur ces choses qu'on a pu aimer avant. Et en fait, c'est porter un regard sur nous-mêmes, en fait. Porter un regard sur la personne qu'on est et s'aimer inconditionnellement. Bon. Donc voilà, donc ça c'est la première vidéo. Et la deuxième, c'est... La deuxième, donc c'est par une vidéo, c'est un podcast. Et donc la deuxième ressource que j'ai envie de vous proposer à l'écoute, cette fois, puisque c'est pas une vidéo, c'est un podcast. Elles sont plusieurs derrière ce projet, donc je vais pas toutes les citer, mais l'épisode qui nous concerne aujourd'hui, c'est celui qui traite de la nostalgie, qui est l'avant-dernier épisode, qui a été réalisé par Sarah Lou Lepers, si je dis pas de conneries. Et du coup... Toute cette série s'intéresse à comment fonctionnent les émotions, donc elles vont voir des neuroscientifiques, des psychanalystes, des sociologues, des psychologues, ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est qu'il va essayer d'aborder plusieurs disciplines qui vont toutes avoir un regard sur ce qu'est une émotion, et en fait chaque épisode est consacré à une émotion, et l'émotion du podcast de Noël en fait, c'était la nostalgie. Et en fait, ça parle assez bien des mécanismes à la fois psychologiques et aussi sociologiques de la nostalgie. Et je vous invite à l'écouter parce que moi, c'est ça qui m'a redonné envie de faire ce podcast que je voulais faire depuis longtemps. Donc, cet épisode d'aujourd'hui va traiter d'un sujet qui m'a été transmis par une amie très chère, une personne très chère à mon cœur qui s'appelle Manu. qui est actuellement en voyage à l'autre bout du monde et qui me manque beaucoup. Pour ceux qui connaissent ou ont connu mon ancienne chaîne qui s'appelait Magnolia Indigo, j'avais enregistré une série d'épisodes avec Manu justement dans la série de podcasts que j'appelais Les Histoires Fondatrices. En fait, c'était, je donnais rendez-vous à une ou un invité et pendant 2 heures, on parlait sur 4 thèmes, toujours les mêmes. Et l'idée, c'était d'accéder à des histoires fondatrices. L'histoire fondatrice, c'est quelque chose avec lequel j'aime énormément travailler. L'idée, c'est un petit peu d'établir sa légende personnelle. Donc, ça peut être avec à l'aide de tarot, ou le fait de verbaliser ces moments marquants, de dire, voilà, moi, je suis ça. Ça, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon imaginaire, ça fait partie de qui je suis et de qui je veux être. Ça va placer en fait des petites pierres comme ça qui construisent une cathédrale de la personne qu'on a envie d'être et qu'on veut être. Et le faire avec des nouvelles personnes, le faire dans des nouveaux espaces, dans des nouveaux cadres. Enfin, c'est pour ça que je propose des espaces de coaching. En fait, c'est pour qu'il y ait d'autres espaces où on puisse se raconter, devenir une autre personne et ne pas rester enfermé dans les histoires... Dans les histoires dont on ne veut plus, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est Manu qui a inventé l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle les racines de ton imaginaire. C'est un exercice que j'aime énormément parce que il est tout simple, vraiment très. Il est enfantin, en fait. Et je l'avais pas mal utilisé déjà pour construire l'atelier de créatique de l'enfant intérieur, qui est un atelier pour renouer avec sa part d'enfance libre, un petit peu la créativité sans limite, naïve, quoi. Et les racines de ton imaginaire, ça parle vraiment de ça. Donc, en gros, si vous avez envie de faire cet exercice, si ça vous intéresse, les racines de ton imaginaire, c'est tout simplement de se poser la question de qu'est-ce qui a structuré les mondes imaginaires qui existent dans notre tête aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui a structuré les choses qui nous touchent, les choses qui nous inspirent, les formats artistiques qui vont nous attirer plus que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre aujourd'hui va nous toucher parce qu'elle fait écho à une œuvre qu'on a déjà aimée avant. Toutes ces choses qui font qu'on construit une cinéphilie, un goût, en fait, tout simplement. Une cinéphilie, une musicophilie. Oui, c'est ça, en plus. Une musicophilie, tous ces goûts, en fait, qui viennent de quelque part. Et regarder ça, en fait. Essayer de se dire, ok, ce que j'aime artistiquement, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie... en fait, à la fois ce que j'aime consommer en tant, à la fois ce que j'aime regarder en tant que spectateur, mais aussi ce que j'aime créer moi en tant qu'artiste, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient d'une exposition artistique ? Est-ce que ça vient d'une exposition à la nature ? Est-ce que ça vient d'une exposition à des types de relations, à des types de contacts physiques ? Est-ce que je cherche à reproduire avec les œuvres que je crée, un certain type de contact physique avec quelqu'un à un moment donné? Qu'est-ce que je veux que les personnes ressentent quand elles reçoivent mes œuvres? Est-ce que j'ai envie de les mettre dans un état que j'ai déjà connu? Et que j'ai déjà connu face à quoi? Face à quelle œuvre? Et pourquoi cette œuvre m'a touchée autant à ce moment-là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail colossal, on n'a jamais fini d'explorer les racines de son imaginaire, et c'est pour ça que c'est un truc incroyable à faire. Moi, je sais que depuis que Manu m'a proposé cet exercice, je le refais vraiment assez souvent parce que j'aime me reposer la question de « Ok, ça, cette émotion-là, pourquoi elle m'intéresse ? Pourquoi j'aime aller chercher cette émotion-là ?» Et dans le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure, le podcast sur la nostalgie, il y a une chercheuse... qui parle de ce qu'on appelle le pic de réminiscence, qui est un concept en neurosciences, qui en gros, la théorie, puisqu'on est encore au stade de la théorie, ce serait que la plupart de nos souvenirs qu'on va se raconter toute notre vie et qui font partie de ce que moi j'appellerais l'identité narrative, c'est-à-dire la plupart des choses qu'on va ressasser toute notre vie comme étant partie intégrante de notre identité se forme entre, il me semble, 15 et 28 ans, un truc comme ça. En tout cas, sur la période de l'adolescence, début de la vie adulte, et qui est une période dont je suis en train de sortir, en fait, dont je suis juste sortie. L'enjeu de racine de l'imaginaire, elle fait écho un peu à ça, à cette idée qu'on a des petits nœuds, en fait, dans l'arbre de notre histoire, des embranchements, à un moment donné, qui vont nous mener quelque part en termes de goût, en termes d'imaginaire, en termes d'univers dans lequel on aime se projeter. Et du coup, j'ai envie de vous inviter à faire cet exercice pour peut-être vous donner une petite idée de ce que moi j'ai répondu à cette question. Je vais vous dire ce que j'ai répondu la première fois. Et ensuite, peut-être une autre œuvre qui pour moi est structurante dans mon parcours. Et je vais vous donner cette petite bribe de moi qui peut-être vous aideront à chercher vous. Quand Manu m'a posé cette question pour la première fois, la réponse que j'ai donnée, elle a été mais directe, et ça a été l'île de la Réunion. Et c'est pourtant pas une œuvre, c'est vraiment un endroit, c'est un espace, puisque c'est l'endroit où j'ai passé, où j'ai vécu de mes 3 à mes 8 ans. La Réunion, en fait, c'est un tout petit caillou perdu au milieu de l'océan, extrêmement sauvage en termes de végétation. C'est-à-dire que vraiment, la civilisation est sur le bord de l'île, le bord sur le littoral, et l'intérieur des terres est absolument envahi par la végétation, et c'est quelque chose en plus auquel tiennent les personnes qui habitent là-bas. C'est d'ailleurs, il me semble, un territoire qui est très en avance sur les questions d'écologie, notamment. La civilisation juste à côté de la jungle. La Réunion est située dans l'océan Indien. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà. En gros, à côté de Madagascar, il y a la Réunion. L'île Maurice, les Seychelles. Enfin, on est dans cette zone-là du globe. Mes parents sont retournés à la Réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec mon petit frère. Parce que mon petit frère est né là-bas. Et du coup, l'idée, c'était de l'amener sur les traces de sa naissance, de l'endroit où il était né. Et du coup, ils sont revenus avec plein de photos, et je me suis... En fait, c'était se reconfronter à la beauté de cette île, En fait, c'est vraiment un endroit où je sais que, en termes de refuge mental, ça va venir très vite. Le sable, la verdure, moi je me sens bien quand il y a des arbres autour de moi. Et vraiment, je parle pas d'un arbre, je parle vraiment d'un environnement d'arbres. Je sais que je me suis sentie bien à Angoulême parce que les remparts sont blindés de verdure. Et c'est des espaces que je recherche, c'est des environnements que je recherche. Le sable est un matériau très important pour moi. Le bruit de la mer, c'est quelque chose de... Qui est extrêmement puissant pour moi quand je me sens près de la mer. J'ai un lien avec les requins qui est très particulier. Avoir grandi à La Réunion, je sais pas si vous savez, mais à La Réunion, ça arrive que des gens meurent mangés par des requins. Ça reste rare, évidemment, mais c'est quelque chose avec lequel on vit. Et quand on va se baigner, il y a des plots partout pour indiquer les endroits où on peut se baigner, les endroits où on peut pas se baigner, parce que sinon, on peut se faire manger par un requin. Il y a une cohabitation avec la nature sauvage, avec le vivant dans ce qu'il a de chaotique un peu. Enfin, dans ce qu'il a de non... En fait, pas de chaotique, mais de non maîtrisé par l'homme, en fait, tout simplement. Par l'homme au sens grand H du terme, mais j'ai envie de garder le masculin parce que ça me fait penser à Starhawk et à ce qu'elle dit sur la mise à distance. Mais c'est ça, en fait, c'est une cohabitation qui, moi, me nourrit en termes d'imaginaire, voilà. Bon, j'ai parlé beaucoup trop, mais ça vous donne une petite idée. Et la deuxième référence qui pour moi est une racine de l'imaginaire, c'est Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Ware. Parlons Péloche a fait un... Enfin, c'est... Parlons Péloche, c'est un podcast que vous pouvez écouter sur SoundCloud. En tout cas, moi, je l'écoute sur SoundCloud, qui paraît Moi, je pense que c'est toutes les deux semaines. Peut-être je me trompe, mais il me semble. Et c'est une bande de potes qui parlent de films qu'ils aiment. Et souvent, ils parlent des films qui sont sortis dans les 3 ans, dans les 3 dernières années. Et ils ont fait une série de hors-série sur les films des années 80. et notamment sur les drames des années 80. Et dans les drames des années 80, il parlait du cercle des poètes disparus. Et c'est une œuvre fondatrice pour moi. C'est une fiction... Moi, maintenant, j'appelle ça les fictions racines. Et ce truc de... La place du théâtre, la place de la poésie, le rapport entre des garçons, l'appel de la créativité, l'appel de sortir des cases, de sortir du code. Enfin, moi, je sais que c'est un rapport à la masculinité qui, forcément, m'habite encore. Je suis un garçon trans et je pense que dans mon rapport à la masculinité, il y a le cercle des poètes disparus. C'est fondamental pour moi dans la construction de ma masculinité. Le cercle des poètes disparus, c'est quelque chose que j'aime bien convoquer. Parce que c'est des garçons qui s'aiment, des garçons qui s'ouvrent émotionnellement, des garçons qui font de la poésie, qui se réunissent pour en faire. Et il y a une gaucherie, une maladresse dans cette masculinité-là qui me touche, qui m'émeut beaucoup. Et qui me parle dans ce que j'ai envie de performer comme masculinité. Et puis il y a Robin Williams. Robin Williams, quand même, qui est genre vraiment une figure d'artiste très importante dans la construction de pas mal d'enfants, mais d'adultes de mon âge maintenant. Donc le cercle des poètes disparus aussi, grosse racine. Grosse racine de l'imaginaire. Je vous invite à vous poser cette question de quelles sont les racines de votre imaginaire. C'est un truc qu'on creuse dans l'accompagnement que je propose. Je vais m'arrêter là. Je sais plus si je vous ai souhaité... Le gars a oublié ce qu'il a dit il y a 30 minutes. Je ne sais plus si je vous ai souhaité bonne année au début du podcast. Si c'est pas le cas, je vous le souhaite. J'espère que cette année va vous apporter absolument tout ce que vous désirez. Amour, joie, liberté, que des choses qui pour moi en tout cas sont très importantes. J'espère que ça vous apportera les choses dont vous avez besoin et ce que vous recherchez dans la vie en fait tout simplement. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker, à le commenter, à venir m'en parler sur Instagram @intimatopia. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Causez le moins de souffrance possible. À très bientôt.